Bienvenue dans l'Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Salut tout le monde! Bon mardi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne jusqu'à 14h en compagnie de Pascal CV. Parce qu'Audrey,
es-tu déjà parti en vacances? Es-tu dans l'avion là?
Son vol a été retardé un peu de ce que j'ai compris, donc ça va aller à ce soir, mais elle est en vacances.
Elle est en vacances, on la salue. Oui. Elle s'en va où exactement?
En Italie.
En Italie. Okay. Ah! C'est pas l'Espagne, parce que tu sais ce qui arrive en Espagne présentement? Il y a des Espagnols qui sont un peu fâchés de voir une surpopulation de touristes dans les centres-villes, ce qui fait en sorte qu'ils vont dans des Dollaramas, puis ils achètent des pistolets à eau et ils tirent de l'eau directement sur les touristes pendant que les touristes sont attablés.
Voyons.
Puis ben, ça donne lieu à des bagarres. Il y en a qui décident de dire « Ah ouais, toi tu me pitches de l'eau dessus, ben moi je te crache dessus. » Puis ça se tapoche un peu. Les policiers sont
pognés. C'est un peu chaud en Europe, certaines cultures.
Ils sont pognés au travers. Ouais, ben oui. Les Grecs, les Italiens.
Ça parle fort, puis ça parle.
Pour avoir travaillé dans des restaurants qui appartenaient à des Grecs et des Italiens, je peux te dire que quand ils ont quelque chose à te dire, ils ne prennent pas...
Et même s'ils attaquent en premier, si tu réplique, ils réattaquent.
Oui, oui, c'est ça. Ils prennent pas super soin de la délicatesse, mettons.
Le dos de la main morte, si tu veux aller.
Ils prennent pas le dos de la main morte. Hey, quelle histoire, la petite Claire Belle qui est portée manquante. Un enfant de 3 ans, les policiers de la Sûreté du Québec qui s'affairent à tenter de retrouver cet enfant-là, qu'elle soit vivante ou malheureusement décédée. On va parler tantôt, vers les alentours de 12h30, on va parler avec le porte-parole de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, que vous avez entendu tantôt, qui faisait un peu là, le round-up de tout ce qui s'est fait dans les dernières heures, puis c'est une enquête de longue haleine, là. Je peux vous le dire, il travaille extrêmement fort. Je parlais avec un policier de la Sûreté du Québec, c'est un enquêteur à Rimouski qui n'est pas affecté à ce dossier-là. Puis lui, il parle de triangulation qui n'était pas possible en raison du fait que la dame n'est pas partie avec son cellulaire. Elle aurait laissé son cellulaire à la maison, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas connaître exactement où est-ce qu'elle s'est déplacée. La triangulation, c'est assez simple, là. C'est que quand tu te promènes avec ton cellulaire, toi, tu t'en rends pas compte, mais ton cellulaire se collecte toujours, il se connecte toujours avec l'antenne la plus près. Puis ça, ben, c'est des données qui peuvent servir au service de police pour savoir tu étais à quel endroit à telle heure. Mm-hmm. Donc ça, ils n'ont pas ça parce qu'elle n'avait pas son cellulaire sur elle. Pour ce qui est du véhicule, c'était-tu un véhicule qui était assez récent, qui était connecté? Ça, on ne le sait toujours pas. Mais c'est d'une tristesse, là. C'est d'une tristesse.
On parle d'une misère humaine. On parle de détresse, on parle de tragédie, on parle aussi d'une enquête qui tombe au criminel quelques heures plus tard. Puis ça revient sur tout ce qu'on se questionnait, l'alerte Amber. Comment est-ce qu'on peut déployer rapidement de l'aide collective puis sociétale là-dedans, même si ça répond pas à 3 critères, par exemple, de l'alerte Amber, parce que ça aurait pu jouer, puis là, plus qu'on a de l'information, plus qu'on se rend compte que ça aurait pu faire une différence, peut-être, là. Avec la rapidité avec laquelle on avait les informations qui étaient déployées, puis pas juste par les réseaux sociaux.
Oui, tu sais, je pense que pour ce qui est de l'alerte Amber, on a tout envoyé le message hier. Il y a plein de gens qui s'affairent sur les internets à dire « Oui, mais les 3 critères! » Ouais. Puis là, moi, je reviens avec l'histoire du temps des fêtes où ils ont réussi à trouver notre numéro de cellulaire à toute la gang pour nous dire qu'il y avait un couvre-feu, puis qu'il fallait qu'on soit tout seul à la maison.
Ça, c'était légitimé sur le droit. Donc, ils ont eu le droit, ils se sont donné le droit, probablement parce que ben là, c'était sécurité publique qui est entrée en ligne de compte. Mais exact. C'est quoi les barèmes? Puis, tu sais, on parlait hier, on se répète, mais par rapport aux petites carpentiers, il y a eu enquête du coroner, il y a eu rapport du coroner, il y a eu recommandation. Puis une des choses qui ressortait le plus, puis que effarouchée, c'est sûr, tu sais, Amélie, là, tu sais, le mieux, là, la maman des 2 petites filles, c'est la mauvaise communication entre les services policiers, puis la mauvaise communication, point, avec la collectivité. À un moment où tu te dis, avec tout ce qu'on connaît en termes de modernité, pourquoi on n'a pas cette latitude-là quand vient une situation d'urgence? Je déteste. Dans ma vie, là, il y a des affaires qui m'auraient pu le plus que d'autres. La première, l'injustice. La deuxième, j'irais avec le manque de solutions. Tu sais, du monde qui se dit « Ouais, mais on peut pas. » Tu sais, ça se fait pas. OK, toi, ton premier réflexe, c'est de dire « Ça ne se peut pas. »
Ouais.
Versus quelles sont les solutions à notre portée de main? Où est-ce qu'on peut avancer un petit peu? On peut-tu brainstormer positivement pour faire avancer les choses? Puis au pire, on frappera des murs, mais on va les traverser, on va les escalader.
Puis on a toujours tendance à faire confiance aux autorités ou faire confiance aux grands décideurs, aux experts, comme on dit. Mais les experts peuvent parfois se tromper. Se sont trompés dans le dossier des carpentiers. C'est les experts qui ont bâti notre système de santé. Se sont trompés, visiblement. Le modèle québécois en santé, c'est un autre sujet,
puis
mais
ça arrive,
il
n'a
jamais été
extrême...
repris ailleurs, mm-hmm. alors qu'on dit que c'est le ouais. modèle québécois en santé.
Puis c'est correct, je veux dire, ça se peut. Mais après, soyez humbles et laissez-nous être
exact.
Indulgents.
Il faut faire confiance. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions aussi à savoir est-ce qu'on peut faire mieux. Puis dans le cas des petits carpentiers, je pense qu'on n'a pas encore appris du côté des hautes instances à la Sûreté du Québec. C'est assez simple de faire exactement comme le gouvernement il y a quelques années, puis de trouver tous les numéros de cellulaire de la province au grand complet, puis d'y aller par secteur, puis de dire, ben exemple, sur l'île de Montréal, il va y avoir une alerte sur... T'sais, partout où on pense, où elle a pu être dans les dernières heures, il va y avoir une alerte, mais ailleurs, tu déranges pas les gens à Vancouver pour ça.
Ouais, moi,
d'après moi,
ouais.
pas le temps de se rendre.
Ben, quoi que frontière de l'Ontario. Puis, tu sais, ce que j'aime là-dedans, c'est tout ce qui est... Qu'est-ce qui bloque, puis comment est-ce qu'on peut passer à travers. Puis tantôt, on va recevoir un invité qui m'intéresse beaucoup sur le dossier, justement. Qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on explique ces choix-là? Est-ce qu'ils sont vraiment explicables? Est-ce qu'on est capable vraiment de dire, bah oui, ça fait. Puis il y a quelqu'un qui nous écrit au 418-971-1021, parce que là, tout le monde se pose des questions. Ça s'en vient provincial, puis même peut-être pan-canadien, cette histoire-là. Mais le père dans cette histoire-là, il est où? La seule information que j'ai eue par rapport au père, moi, c'est des voisins qui ont été questionnés dans les dernières heures, qui habitent à côté d'où le père habitait avec la jeune fille. Donc, sont-ils encore ensemble, les parents? Y avait-tu le conflit? Je sais juste que des voisins se sont prononcés sur l'agréabilité du dit père avec la jeune fille dans le voisinage.
Ouais. Donc là, la mère a comparu devant un juge. Elle est accusée d'abandon d'enfant. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'au Québec, au Canada, en fait, tu n'as pas le droit de garder quelqu'un pendant plus de 24 heures sans l'accuser, sans quoi tu dois le lâcher. Tu dois lui dire, ben, retourne à la maison, tout simplement. Donc, ce qu'ils ont fait dans les dernières heures, c'est accuser la mère d'abandon d'enfant, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent continuer à la questionner puis ils peuvent la garder entre les murs, ce qui est une maudite bonne affaire. Dans les dernières heures, il y a des gens qui sont très curieux, sont allés fouiller un peu sur les réseaux sociaux et on a découvert le TikTok de la mère. Et quelques heures avant la disparition de cet enfant-là, elle a mis une vidéo qui est quand même assez inquiétante là, sur TikTok. Ce qu'elle dit, en fait, je vais vous le faire entendre, elle dit « Si tu essaies ça à nouveau, ça va mal virer. » Donc, elle le dit en anglais « This is gonna get ugly. » Si vous allez voir sur la vidéo, c'est écrit « As-tu déjà affronté une mère qui n'a plus rien à perdre? » Donc, c'est pour ça qu'on pense, plusieurs pensent, on fait peut-être erreur là-dedans, mais on pense qu'elle s'adressait directement au père de cet enfant-là à ce moment-là. Je vous fais entendre la mère.
« You try that again, and this is gonna get ugly. You try that again, and this is gonna get ugly. »
Ça fait ça.
On dirait un film.
Puis t'as la petite fille qui est juste à côté, qui se demande ce qui est en train de se passer. Donc, on espère qu'on la trouvera, Pascal, dans les prochaines heures, qu'elle soit en vie, qu'elle ait confié cet enfant-là à une personne qui décide de la garder puis d'en prendre soin pendant quelques heures pour stresser tout le monde. Mais là, le chien est retrouvé, chien mort. Puis là, on est en train de regarder dans des cours d'eau. On y va à la pige. Je sais qu'il y avait des plongeurs aussi qui étaient appelés sur place à certains endroits. Il y a beaucoup de cours d'eau dans ce secteur-là. Mm-hmm. Parce qu'elle était à Montréal, puis elle a dû suivre l'autoroute pour sortir de l'île de Montréal. Puis tout le long de cette autoroute-là, c'est que des cours d'eau. Là.
Ça, c'est fouillé. Énormément de logements. On était à plus de 150 dans les dernières heures. Les gens se font cogner, réveiller, et tout ce qu'il faut pour essayer de voir si on est capable de localiser soit un indice ou la petite, assurément, mais... C'est des recherches assez intenses en ce moment. Je me rends compte de l'intensité de ces recherches-là au moment où, quand tu parles à des gens relationnistes là, dans les services, les corps policiers ou peu importe, puis que tu sens qu'ils ne sont que les répétitifs de plus haut.
De plus haut, qu'est-ce que tu veux
dire? De plus haut qu'eux. Ouais. Quand ça s'en vient, vraiment une gestion fermée au niveau des communications. Puis, tu sais, c'est ce qui est normal. Si là, on passe à une enquête criminelle, souvent, ça va se refermer, les étaux se referment. Mais tu vois la différence d'enquête à ce moment-là.
T'as-tu des amis qui déménagent dans les prochaines semaines? T'es-tu offerte pour tes bras?
Bien, le 1er juillet.
Là, tu t'entraînes pour le Kilimanjaro. Ouais, fait que tu dois être capable de lever un frigidaire.
Frigidaire, t'as beaucoup d'espoir en moi. Avec des sangles ou pas? À deux ou pas?
Avec des sangles, ouais. Malgré que j'ai jamais vraiment travaillé avec ça, quand j'ai fait du déménagement, nous autres, on y allait à bras, là, on risquait notre dos. Mais effectivement, avec des sangles, c'est une façon intelligente de travailler.
Faites-vous honneur, honnêtement, à place de vous péter le corps au complet. Ouais. Mais moi, je suis rendue un peu déménagement. Je suis un peu rendue princesse sur le déménagement.
Ah,
moi,
ouais!
Demander à du monde. Ça m'énerve, je me sens de... Tu sais, je sens que c'est de trop, je trouve que j'aime pas ça. Puis dans les dernières années, mettons, j'ai déménagé deux fois. Donc, j'aime pas ça, ça me stresse de demander cette aide-là. Puis, tu sais, personne n'a le goût d'aller déménager quelqu'un, là. Dites-moi pas que vous avez donc bien du fun à déménager quelqu'un.
Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle activité. Puis en plus, tu revois tes chums. T'sais, des fois, c'est des gangs de gars que t'as pas vu depuis longtemps.
Ouais,
puis, ouais, la dernière fois, je
avec pizza et bière.
Je sais pas si mon chum Joe est à l'écoute, mais Joe a tout perdu dans la même année.
Hein? Oui. Tu ris?
Il a tout perdu dans la même année.
Tu ris?
C'était juste hallucinant. On était extrêmement triste pour lui. Puis, mais il y avait des choix là-dedans, que c'était lui qui avait fait ces choix-là. Mmh. Mais ce jour-là, on a déménagé Joe. Puis on l'a niaisé. Ça a comme fait du bien, autant à Joe que nous autres.
Ah, ça a un peu par le rire, dédramatisé la situation.
C'était de l'humour noir. Là. Si toi, t'avais été là, là, t'aurais dit, les gars, arrêtez.
Ben, ça dépend. Il y a hors d'onde puis en onde.
Ça fait partie de nos beaux moments.
Il y a hors d'onde puis en onde. Ouais, mais ça, c'est vrai que ça rassemble une gang. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait plus affaire avec des déménageurs de dernières années. Puis je t'avais compté, je pense que j'étais avec toi en onde à ce moment-là. La dernière compagnie de déménagement avec laquelle j'ai fait affaire, là. Je n'ai jamais vu quelqu'un maltraiter ces gars de même.
Ça t'a coûté combien, ce déménagement-là?
J'avais pas énormément de choses, puis j'avais fait à bras avec ma sœur tellement de
parce qu'à Québec, là, un 3,5, je sais pas si c'est les mêmes prix partout, mais un 3,5 pour le 1er juillet, c'est 2 200 $ plus pour boire. Là.
C'est énorme. Moi, ça m'a pas coûté ça du tout. Premièrement, parce que le 1er juillet, je déménage pas le 1er juillet. Depuis toutes les dernières fois où j'ai déménagé, ça n'est jamais arrivé. J'attends. Ou je le fais avant. Fait que ça arrive pas. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Deux, je fais beaucoup par moi-même. Fait que je paye pas quelqu'un qui fait mes boards.
Tu fais des petits voyages.
Je fais des petits voyages, mais j'en donne une chier de tralée de choses par moi-même. Puis c'est les grosses choses qui me restent. Je pense que ça m'a coûté 500.
500, c'est vraiment bon. Ouais. Mais à Québec, un 3,5, 2 200, moi j'ai dit, Criff, sérieux, tu le payes en maudit ton déménagement. Puis ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y avait plus de place nulle part.
Fait
il était probablement en retard sur les calls aux compagnies de déménagement.
Puis il doit avoir une certaine pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Là. Je m'avance, je ne sais pas. Mais ça ne doit pas être la chose la plus intéressante à faire à sueur au 1er juillet, à avoir chaud puis à déménager du monde qui sont pas prêts, parce qu'il y en a qui arrivent là, puis c'est des histoires d'horreur là. Les déménageurs arrivent, il y a pas une boîte de fête, mais c'est pas dans le contrat là, qu'ils fassent des boîtes.
Les gars, c'est sûr que les gars, c'est pas la plus belle des journées le 1er juillet là, mais c'est vraiment payant pour eux, donc tu comprends qu'ils aiment bien ça faire ça. Si tu attends en régulier, si tu attends en double, si tu attends en triple, je sais pas, puis là-dessus, y a-tu de l'argent au noir?
Peut-être.
418-971 1021 par texto, comment ça fonctionne, vous autres, dans votre compagnie de déménagement. Mais je trouve que 2 000 $ pour un 3,5, c'est très exagéré. Puis, tu sais, on se pose toujours la question, Pascal, à savoir pourquoi on est encore là-dedans. Tu sais, le 1er juillet, c'est la date à laquelle tout le monde doit déménager. Ça fout tout le monde dans le trouble. Si le locataire du logement où toi tu déménages, son équipe à lui est en retard, puis toi, tes déménageurs arrivent, t'imagines le chaos?
Non, mais c'est toute la courroie de transmission. On avait reçu Chantal Baribeau puis des gens de logistique là, à propos de ça. Ce qu'elle nous avait expliqué, c'est que c'est la pire journée même pour des entrepreneurs, mettons, en loyer, là, location d'immeubles, parce que parfois même, il y en a qui partent pas, qui avertissent pas, qui n'ont pas loué de camion puis qui se rendent compte finalement que Joseph puis Patrick, là, dans leur petit truck, là, ça fonctionne pas de déménager quelqu'un qui passe d'un 4,5 à, mettons, un studio ou autre. Le petit truck, il est plein. Après, ça demande peut-être 34 voyagements. T'es peut-être dans le trafic. Il y a peut-être... Tu sais, il y a toujours des accros là, dans un déménagement.
Pendant la pandémie, j'étais avec un gestionnaire d'immeuble. Puis, à un moment donné, il est intervenu sur un conflit. J'étais là. J'étais avec lui. Et le locataire n'avait pas ses déménageurs. Les déménageurs avaient cancellé dans la journée.
Super!
Le 1er juillet.
C'est tellement fiagène.
Puis, les nouveaux locataires étaient là. Puis là, les nouveaux locataires, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, là, c'est-à-dire d'être patients parce qu'eux, ils se déménageaient par eux-mêmes. Fait qu'ils restaient dans la cour où ils allaient manger au restaurant. Mais tu sais, tu peux pas t'éloigner ben de ton stock. Puis à un moment donné, le nouveau locataire a dit à l'ancien locataire qui n'avait pas encore quitté le logement, « Regarde, moi, je vais rentrer, là, m'a tout crissé tes affaires dans la rue.
Ouch. Ouch. En même temps, si l'autre, c'est ça, ça le mettait dans le jus.
Fait qu'il a fallu, qu'on colle une autre équipe. C'est un gestionnaire d'immeuble, fait qu'il y avait une équipe à lui. On a collé une autre équipe qui est arrivée avec un camion de l'entreprise qui ont fait eux-mêmes le déménagement, puis l'ont mis dans un immeuble temporaire.
Aïe.
Le temps que lui, c'était un immeuble qui était à trois rues, là.
Aïe.
Le temps que lui ait ses propres déménageurs.
Non, c'est pas drôle. Puis là, dans quel état aussi? Toi, là, quand tu déménages, Yannick, là, tu sais, mettons, on spécule. Et moi, là. À un moment donné, tu vends ta maison.
Ouais.
OK? Tu décides de déménager. Tu fais-tu le ménage avant de partir?
Je t'informe avant. Parce qu'il y en a qui vont faire affaire avec des compagnies de ménage. Fait qu'ils vont dire, regarde.
Avant de rentrer.
C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, les fois où j'ai vendu ma maison, à Lévis, c'était ça. La dame a dit, hey, faites pas le ménage pour rien. J'ai ma compagnie de ménage qui va aller faire un tour avant que je rentre.
À sa façon.
Puis j'ai dit, OK, c'est parfait, mais tu comprends que nous autres, on veut pas laisser la maison dans un bordel total. On vient d'y vendre. Fait qu'on avait fait un petit ménage. On a nettoyé les toilettes, on avait passé le balai, la mop, puis tout était correct à l'extérieur puis à l'intérieur. Pour que tu rentres dans ta nouvelle maison, ça sente bon. Là.
Ben, le minimum.
C'est ça. Mais après ça, ben là, c'est la peinture et tout ça qui rentre en jeu.
Je comprends que c'était un secteur. Moi, là, ça, là, je sais pas, je vous lève mon chapeau. Je comprends que c'était un secteur d'éducation, mettons, du cégep. Là. Mais mon appartement, le premier que j'ai eu pour le cégep, Yannick, là, je dirais nettoyé. Tu connais mon vocabulaire. Mm-hmm. Je veux dire, j'ai torché du ketchup, de la moutarde, de la reliche dans la salle de bain. Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'était passé dans la salle de bain? En même temps, je veux pas le savoir. La seule chose, c'est que. Ça, c'est sûrement des jeunes qui se sont amusés, qui ont fait un party puis n'ont jamais ramassé. Mais mettons, tout ce qui est appartement étudiant, je vous lève mon chapeau au propriétaire d'immeuble. Ça doit être vraiment difficile. T'sais, quand tu es jeune, tu n'es pas conscient de la réalité. Ou encore, tu sais, diverses cultures, on est tous différents sur notre façon de faire du ménage ou autre. Là. L'entreposage.
La propreté, ça ne devrait pas être différent. Là. Je comprends qu'il y en a qui.
Oui, mais il y en a qui font pas exprès de ne pas se rendre là mentalement.
C'est rangé, mais c'est pas propre. Mais moi, j'aime mieux quand c'est propre et c'est rangé. Mais tu t'organises pour pas avoir l'air d'un cave quand le nouveau locataire ou quand le nouveau propriétaire de ta maison rentre.
Quand je suis entrée dans mon condo, j'avais de la litière dans mon évier. Un vrai calvaire. C'est un texte qu'on reçoit. Hey!
Ouais.
J'ai toujours payé pour un ménage complet pour les nouveaux propriétaires. Oh, ça, c'est super smart.
T'as-tu toujours signé des baux, toi, avec tes propriétaires quand t'habitais en logement?
Oui.
Ouais. Moi aussi. De plus en plus, il y a une mode là, qui vient de sortir. Ça fait déjà 2-3 ans à ce qu'on nous dit. Il y a un article du Devoir à ce sujet qui parle des baux de villégiature. Donc, c'est comme si tu louais un chalet, mais tu loues un logement. C'est comme si tu louais un chalet, mais de courte durée. Fait que ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, mais ça permet au propriétaire, si tu payes pas, de te sacrer dehors. Il y a des twists partout. Hein. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, c'est des propriétaires qui profitent d'une lacune dans le code civil et qui font signer aux locataires des contrats de villégiature plutôt qu'un bail de logement, ce qui leur permet notamment d'exiger la remise d'un dépôt de garantie qui est interdit dans les baux résidentiels, des pratiques que dénoncent bien entendu les avocats en droit du logement et un travailleur temporaire. Mais si tu demandes un dépôt, c'est-tu parce que tu doutes du locataire que tu veux rentrer?
Je sais pas, mais je pense que ça, le dépôt, il n'est pas nécessairement légal. Là. Moi, je m'étais obstiné au cégep, justement.
Si c'est les baux réguliers qu'on a, là, fait, tu sais, écrit en bleu et tout ça, tu n'as pas le droit de demander un dépôt.
Mm-hmm, okay? C'est ça.
Sauf que je comprends les gestionnaires d'en demander dans certains
avec
cas.
Avec toutes les surprises. Oui, mais là, après, c'est comme la discrimination. Mais j'avoue, tu sais, à un moment donné, t'es comme je me suis tellement fait avoir. C'est quoi mon recours? Donc, mon recours, pour moi, c'est un dépôt. Puis après, ben, je tombe dans la catégorie, je fais de la discrimination selon les locataires. Après, donc, je vais l'appliquer à tout le monde. Mais en même temps, c'est pas légal. Hey, c'est compliqué. Pour vrai, là, je vous trouve extraordinaire si vous êtes propriétaire d'immeuble puis vous gérez des locataires. Il y en a qui pensent aussi que les propriétaires d'immeubles, les gestionnaires d'immeubles, c'est, mettons, Aladdin. Fait que là, peu importe ce qui se passe, peu importe quel souhait tu as aussi, tu appelles puis ils vont répondre à ton problème. Genre, hey, je me chicane avec mon voisin, ça fait pas, je t'écœuré. Là, il faut que lui, il règle la chicane entre les voisins. Là. Voyons!
Mais c'est mon chum, Michel Côté, qui fait de la gestion immobilière, c'est un des plus gros gestionnaires immobiliers. Lui, il fait face à ces affaires-là à chaque fois. Puis ce qu'il me racontait, c'est que si, exemple, toi, tu veux signer un bail pour habiter dans le secteur Le Bourgneuf, il va te faire visiter ça, Puis il va te dire, regarde, prends du temps pour réfléchir. Là. Moi, je te trouve intéressante comme candidat pour ce logement-là, comme candidate pour ce logement-là. Prends du temps pour réfléchir, puis quand tu seras prête, appelle-moi. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait?
Il va sur Facebook.
Quand tu l'appelles, il dit pas, viens me voir à mes bureaux. Il s'en va chez vous.
Pour voir un peu l'état des lieux.
Fait quand il arrive chez vous, puis tu habites dans une soue à cochons, ben ça se peut que tu puisses pas signer le bail. Et je trouve ça tellement intelligent.
Ouais, c'est très brillant. L'affaire, c'est que moi, jamais je laisserais quelqu'un que je connais pas venir chez nous. Là, mais ça.
Ben pour signer un bail. T'sais, tu l'as rencontré
anyway. Jamais.
OK.
Même pas jamais.
Même pas un one night.
Jamais. Jamais. Jamais.
Je me fais mentir, jamais. Les gars. Je me fais mentir.
Jamais. Viens. Non, je vous le jure. Non. Non. Va aller chez vous, toi, le locataire, avant que tu viennes chez nous.
Non, mais je veux dire, tu sais, quand t'es pris au dépourvu puis t'as besoin d'un logement rapidement,
c'est pas brillant.
Le gars t'a fait visiter le logement puis il dit, garde, je te le réserve à toi, réfléchis un peu puis quand tu seras prêt,
appelle-moi.
Puis après ça, il s'en va directement chez... S'il y a un doute, il va aller directement chez toi, il va regarder l'étendue des lieux. Ça pue-tu à charogne chez vous quand tu rentres? Les vidanges sont-tu changés ou bien ils débordent de chaque bord? Les murs sont comment? Sont-tu tout poqués? Y a-tu des crottes de nez là-dessus? Ça se peut qu'ils disent, hey, finalement, tu sais quoi? Je regarde là, pour le logement, je me suis trompé.
Je vais te conter une histoire que tu vas adorer. Je ne t'ai jamais conté ça. Je vais là pour ton pur plaisir personnel. Parce que l'habit fait pas le moine. Tu connais l'expression? À un moment donné, je vois, il y a plusieurs mois, quelqu'un qui me semble intéressant.
C'est l'abbé moine à l'air.
OK. Le gars semble vraiment intéressant. Il a un métier, je veux dire, qui normalement, t'es assez droit dans la vie.
Il fait quoi dans la vie?
Normalement, puis, tu sais, good looking, s'habille bien, il se présente bien. Sauf que je vois que j'ai une amie en commun avec cette personne-là. Fait que je demande à mon amie, en envoyant un screenshot.
Détective Pascal.
Exact. Elle me ferait pas avoir. Envoie ça. Elle dit, ouh, très loin. Tiens-toi très, 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 très loin.
Ah ouais?
OK. Là, je m'attends à ce que ce soit dans les comportements un salaud ou quelque chose. Elle dit, non. Elle dit, c'est pas un salaud dans les comportements, c'est un salaud à la maison. Elle dit, je n'avais jamais... Parce qu'elle, dans le fond, elle a étudié avec cette personne-là. Puis à un moment donné, il y avait un travail d'équipe à faire avec une équipe. Puis elle est allée chez cette personne-là. Puis elle dit, j'ai jamais vu un logement sale de même. Mais sale, insalubre. Pas sale, ça traîne, il aurait fallu une petite brosse dans l'évier.
Ouais, il vivait dans la misère.
Non, mais il se crée sa misère. Fait que ça parle aussi. Parce que toi, tu pourrais te présenter à moi, Yannick, puis... T'as l'air, tu sais, mettons, quelqu'un qui prend soin de sa personne, tu coupes tes cheveux, tu sens bon, tu t'habilles mal, mais tu t'habilles. Mais après, tu t'en vas chez quelqu'un, puis c'est tout scrap de même. Fait que je trouve ça brillant qu'ils prennent la chance de connaître la personne autrement. Mais bon, on a tellement de textos, Yannick.
Donc, l'article dans Le Devoir, là, méfiez-vous, parce que ça se peut que ce soit pas un bail en bonne et due forme de 12 mois ou de 24 mois qu'on vous fasse signer. Ça peut être un bail au mois. Ce qui est légal à certains égards.
Location
ça,
court terme.
Ça peut être un bail de villégiature. Mm. Si c'est un bail de villégiature, sachez qu'au bout de 6 mois, il est libre de vous augmenter le loyer sans aucun problème. Il y a un article du Devoir.
Oui, très intéressant ce matin. Des textos. 1er juillet, c'est un mardi cette année. Le férié est déplacé au lundi, mais le logement est juste disponible le mardi. Il faut prendre congé. C'est un peu spécial au Québec. Quelqu'un qui dit aussi que par rapport à les propriétés, on a vendu 3 propriétés en l'espace de 4 ans et 3 fois, on a payé le ménage complet de la maison. C'est quand même une question de réputation et de savoir-vivre. Tu sais, cette personne-là se pose la question de je vais avoir l'air de quoi finalement, mais peut-être elle va jamais revoir les gens qui vont emménager la maison. Moi, je pense que ça, la fierté se perd beaucoup en société. Demande aux générations, Yannick, toi, tu dis, moi, c'est du ménage, sinon, c'est une compagnie de ménage. Descends de génération en génération, pas sûr qu'ils ont le même thinking, là. Quelqu'un qui dit, quand je suis entrée dans ma maison, il y avait de la vieille eau de mop pas vidée, un vieux frigo non fonctionnel dans le sous-sol rempli de nourriture. Puis ça, j'ai connu quelqu'un que le frigo n'était pas en fonction. Les comptoirs de cuisine étaient remplis. Il nous a laissé dans son cabanon rempli de cochonneries.
Ouais, il y a des gens qui font ça. Ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas leur vieux divan.
Ouais.
Fait qu'ils vont le laisser sur place.
Ils appellent pas à grosse vidange, là. Ils gèrent pas leurs affaires.
C'est ça. Nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pogné le divan. On l'avait sacré en bas du 3e étage. Mais on pouvait le faire à ce moment-là. Ouais. Après ça, les grosses vidanges sont venues le chercher. Hey. 1er juillet, c'est l'enfer, à quel point il y a des affaires sur le bord du chemin. Puis, tu sais, dans le secteur du centre-ville, même, je vous dirais, Saint-Sauveur, peut-être même plus éloigné dans le secteur Dollard, il y a des gens qui mettent les meubles sur le bord du chemin parce qu'ils n'en veulent plus.
Mais ils abandonnent.
Ramassez pas ça, les amis.
plein de puces, les puces, la rage là-dedans. Là.
Peut... Non, mais il peut y avoir des punaises de lit.
Toutes les puces, la rage, OK?
Tu t'amènes ce meuble-là chez toi, t'infectes les meubles au grand complet là, avec les punaises de lit.
Touchez pas. Hey, les vieux matelas, qui... Tu sais, mettons, à moi, Yannick, là, t'as pas d'argent, t'es en détresse financière, t'es dans un autre contexte. Mais si tu peux t'en acheter un matelas, à quel moment tu te dis, « Hey, il y en a un sur le bord de la route, ça fait deux jours qu'il est là, la pluie, l'humidité, la moisissure, les champignons, je sais pas qui a couché dedans. »
Il y en a qui sont dans la misère, Pascal. Là.
J'ai fait...
C'est 1000 piastres,
Yannick,
là.
Je l'ai dit avant de dire mon commentaire. Mais regarde, moi, le beau bureau, là, j'aurais pu travailler là aujourd'hui. Là. C'est ça qui m'attendait en sortant de chez nous aujourd'hui.
Ils t'ont mis ça dehors.
Ah, ils m'ont mis un beau bureau soleil.
Ouais. Mais c'est vrai que les matelas, moi aussi, je serais hésitant. Quoique aujourd'hui, ils
seraient hésitant.
Ben,
moi,
oui.
J'entends une porte de possibilité.
Mais c'est parce que je suis quand j'étais dans la misère, moi, j'ai déjà été vraiment dans la misère.
Je couche à terre.
Tu sais, je regardais les matelas, puis des fois, j'hésitais, tu sais. Mais à cette heure, ils vendent des genres de pellicules de plastique, là. Il n'y a rien qui passe au travers de ça, même pas les punaises de lit. Tu le rajoutes par-dessus le matelas.
Je manque de courage.
Puis tu es capable de vivre avec ça pendant des années et des années. Si le matelas est encore bon.
Je manque de courage. Je suis une peureuse, hein. Jamais. Demain, j'ai pas de matelas. Je me retrouve en situation d'itinérance et par terre. Tu vois combien de temps?
Par terre direct?
Ben là, dans mon appart, là. Hein. Non, Yannick, il n'y a pas... Non.
T'es en situation d'itinérance dans son appart. Tout fonctionne bien.
Oui, exact. Prends pas ton matelas.
OK, bon ce matin, Pascal, on parle avec Frédéric Bérard, qui est avocat, enseignant, auteur et chroniqueur. On parle de...
Tout ce qui se passe avec l'affaire Claire Bell, en fait. On veut savoir c'est quoi les limitations policières là-dedans. On peut-tu poursuivre les regroupements policiers en cas d'erreur, par exemple, parce qu'on n'a pas déclenché l'alerte Amber?
Un peu comme la mère des petites carpentiers.
C'est quoi qu'on peut prendre en termes de responsabilité aussi policière, de dire, bon, ben l'alerte Amber, il y a des critères, on est allé avec le ministère de la Justice, c'est ça qu'on a le droit d'envoyer, mais est-ce qu'on a le droit aussi, dans des cas comme ça, d'envoyer des textos à tout le monde? Ça prend-tu 150 jours pour se faire dire oui par le ministère de la Justice? C'est quoi la responsabilité policière derrière ça? Les risques aussi derrière la mauvaise prise de décision professionnelle? Qui va être imputable si jamais il arrive quelque chose et on se rend compte qu'il y a eu du laxisme?
Donc, Maître Frédéric Bérard sera avec nous dans les prochaines minutes. Sinon, les news de Max, les sports de Max dans les prochaines secondes. Et à l'instant, Caravane cherche le trouble sur Boulevard. Merci d'être là. En ce mardi ensoleillé, on est gâtés ce matin.
Boulevard
101. 10h39, minutes. Audrey Pinchot qui est en vacances et Pascal CV qui la remplace, qui tente de mettre les grosses chaussures à Audrey.
Ah, ça va être difficile. Je pense pas être capable de les porter.
Hier, je pense que c'est la seule qui était pas sur des dictionnaires avec Denis.
Elle avait deux feuillets. Elle avait deux feuillets pour l'aider à être plus haute.
Ils
ont
mis deux, trois dictionnaires pour que Véro puisse être à la même hauteur que tout le monde.
J'avais
pendant
même
la séance
pas
de photos,
qu'il en restait autant sur la planète Terre des dictionnaires.
Mais c'est ça, mais toi, t'as mis tes grands parches, là.
Moi, j'ai rien eu à mettre. J'ai failli avoir à enlever mes sandales pour prendre les photos avec toi.
T'avais pris 6 pouces hier, Caroline. Hey, c'est une alternance de soleil-nuage qu'on a aujourd'hui. On est gâtés. Peut-être un peu d'averse cet après-midi, mais seulement 30% de probabilité d'averse. Maximum de 26 avec le facteur humidex. Ça va être une température ressentie de 32 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, ciel nuageux. Mercredi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse. Risque d'orage en après-midi avec un maximum de 22. Jeudi, de la pluie. Et vendredi, ce serait le retour du soleil avec une alternance de soleil-nuage, un maximum de 22 degrés. Il est au bout du fil, on vous en a parlé. On a la chance de jaser avec Maître Frédéric Bérard, qui est avocat, enseignant, auteur et chroniqueur. Salut Fred!
Salut Yannick!
Comment allez-vous, mon cher monsieur?
Ça va comme c'est venu, cher ami, vous de même.
Oui, ça va bien, malgré l'actualité qui est un peu lourde avec cette disparition de cette fillette de 3 ans, la petite Todd. C'est Rachel Todd, c'est sa mère, Claire Bell. C'est cette jeune fille qu'on recherche partout. Alors là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a trouvé l'animal qui l'accompagnait, mais on n'a toujours pas trouvé l'enfant. C'est à chaque heure qui avance, on se dit que c'est peut-être une enfant morte qu'on va trouver finalement.
Ouais, écoute, rendu là, je sais que de ce que j'ai compris, du moins les efforts policiers sont au rendez-vous. Là, il y a des patrouilles, ils ont fouillé de fond en comble l'immeuble de plusieurs appartements hier encore. Donc, gardons espoir, mais tout ça est assez... De ce que j'ai vu des reportages médiatiques là, qui sont nécessairement incomplets, je présume, Tout ceci est assez flou, c'est assez nébuleux. Là. Ça m'a l'air d'être une assez spéciale histoire, merci.
Ouais. Puis là, on regarde un peu du côté de la mère, puis on s'aperçoit que son TikTok est rempli de moments qui sont extrêmement troublants. Une femme qui semblait être isolée, avoir de grosses problématiques au niveau personnel, mentionne qu'elle a beaucoup trop de lourdeur sur ses épaules pour continuer à en prendre plus. Et dans la dernière vidéo qui a été faite au moment où l'enfant pratiquement a disparu, là, quelques heures avant, elle est assez cinglante. Je vais te faire écouter ça.
You try that again, and this is gonna get ugly.
Tu essaies ça encore une fois et ça va devenir vraiment mauvais, là. Ouais.
T'sais... J'ai compris aussi qu'elle était débarquée dans un commerce un peu con, l'air confus, pieds nus. Bon, écoute, je suis pas psychiatre, là, puis je veux pas m'aventurer dans sur ce terrain-là, mais je pense que c'est assez évident que cette dame-là est en détresse. Et là, évidemment, il y a un enfant qui est à charge, là, qui est nécessairement coincé dans tout ça. C'est assez atroce, merci. Ouais.
Justement, tu sais, on t'appelle aujourd'hui, Frédéric Bérard, parce que t'es avocat. Là, l'enquête vient de tomber dans une matière criminelle. La différence entre la communication puis une enquête qui est somme toute plus sociale, disons-le comme ça au départ, et quand elle tombe au niveau criminel comme ça, c'est quoi les barèmes que tu connais sur lesquels on doit pas trop s'avancer parce que ça pourrait nous nuire en cours?
Ben là, évidemment, je pense, de ce que je comprends, qu'il y a une enquête policière formelle là, qui a été lancée. Mm-hmm. Pourquoi? Ben parce que les gens ont vu la vidéo dont parlait Yannick. Les gens ont vu les reportages et là, les policiers se sont dit, ouais, OK, clairement, il y a un risque précis que la dame en question, je vais le dire un peu crûment, là, mais ait abandonné son enfant ou elle l'a peut-être même tué. Là. Je suis désolé des mots un peu raides, mais c'est quand même ça. Donc, les policiers se disent la sécurité de l'enfant en question est en cause. Ça semble assez évident. Donc, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans le jugement parental. Là. C'est pas le parent au centre d'achat qui laisse son enfant crier en arrière. Là. On est une coche au-dessus. Là. Dans le premier cas, évidemment, les policiers s'en mêlent pas. Dans le deuxième, là, c'est clairement une autre histoire. S'ajoute à ça la pression populaire, la pression médiatique. Donc, à mon sens, les policiers fouillent actuellement en se disant la personne responsable, la suspect numéro un, c'est nécessairement la mère. Ceci dit, sur la question, parce que je pense que c'est là que tu t'en allais, Pascal, en quelque sorte, sur la question de l'alerte en Amber, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que c'est que ça a été créé, ça, dans les années 90, puis on fait attention. Hein, l'alerte Amber, c'est pas n'importe quoi non plus. Il y a des critères à respecter pour les policiers. Le premier critère, ça prend quelqu'un de moins de 18 ans, et qu'on ait des motifs raisonnables de croire à un enlèvement. Deuxième critère, c'est que la sécurité de l'enfant, physique ou psychologique, mais surtout physique, soit en cause. Et troisièmement, que les informations qui pourraient être obtenues au suite d'une alerte Amber pourraient mener justement aux retrouvailles en question, pourraient permettre de savoir où se trouve l'enfant. Donc, ici, de ce que j'ai compris, c'est ce que les policiers ont mentionné, c'est que ben non, l'alerte, elle devrait pas s'appliquer pour tout de suite, ça prend des critères assez bêtes. Moi, j'ai l'impression qu'ils se disent tout simplement que la mère n'a pas pu enlever son enfant, ce qui, comment je te dirais, dans un sens, est un peu logique, là. C'est pas comme, par exemple, une garde partagée, puis le père part avec les enfants, comme on a déjà vu, là, c'est autre chose. Si la mère a la garde de l'enfant, ben, peut pas enlever un enfant qui t'a la garde, de toute évidence. Sauf que là, moi, ce que je reproche, peut-être, puis je le dis avec beaucoup de minutie, beaucoup de précaution, là, parce que je veux pas lancer des rushs inutilement, mais je pense que les policiers ont une lecture très, très, très littérale, très, très, très
exact.
By the book, c'était mieux, de ce qu'est la condition première
et pourquoi?
Celle de l'enlèvement.
Parce que ça peut-tu les nuire? Peuvent-tu se faire rabrouer quoi que ce soit dans le droit? T'sais, c'est là où on se demande pourquoi est-ce que cette lecture-là est aussi stricte? Qu'est-ce qui est derrière?
Ben, moi, sincèrement, ça, faudrait demander peut-être aux policiers, là, mais moi, j'essaie de voir, parce que quand tu m'as lancé ça hier soir, je me suis questionné, c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Le pire qui peut arriver, c'est qu'il lance une alerte Amber. Bon, tant qu'à moi, le pire, ce serait que ça serve à rien, là, puis qu'on ne retrouve pas l'enfant ou qu'on la retrouve décédée. Mais qui va... Quoi, la mère va poursuivre des corps policiers parce qu'ils ont lancé une alerte Amber? Je veux dire, devant les tribunaux, mettons une poursuite au civil, devant les tribunaux, ça ferait pas sérieux, là,
ben
parce
non.
que le juge analyserait la vidéo que Yannick a fait jouer tout à l'heure, analyserait les reportages sur le fait qu'il est débarqué pieds nus, tout mêlé dans un centre d'achat, commerce, XY, peu importe. Puis le juge se dirait, ben écoutez, madame, oui, évidemment, là, les critères sont précis, mais c'est parce que là, moi, je vais favoriser une lecture plus libérale, qu'on appelle, hein, mm-hmm. plus généreuse des conditions, c'est-à-dire on va en rentrer plus qu'on va en rentrer moins compte tenu de la situation.
Maître Bérard, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que la Sûreté du Québec n'a pas appris de l'affaire Carpentier. Il y a eu des enquêtes mm-hmm. qui ont été faites sur l'affaire Carpentier. La Sûreté du Québec a vraiment mal paru dans toutes les enquêtes qui ont été faites.
Rapport du coroner étoffé.
Rapport du coroner qui mentionne que l'alerte Amber, ça a été fait plutôt de façon tardive. Dans ce dossier-ci, je suis entièrement d'accord, quand on lit les paramètres là, pour déclencher une alerte Amber, ça ne correspond pas à ça. Mais souviens-toi, Fred, là, je pense que ça va te faire sourire, pendant la fameuse pandémie, ils nous ont tous rejoints pendant le temps des fêtes sur nos cellulaires pour nous dire qu'on avait un couvre-feu. Donc, le gouvernement est en mesure de peser sur un piton pour toutes nous rejoindre puis que ce soit sectoriel. Donc, pourquoi la Sûreté du Québec, plutôt que de déclencher une alerte Amber, là, parce que si c'est au sens littéral, ça ne s'adapte pas, on aurait pu prendre le même piton puis peser sur le piton en disant on recherche une petite fille de 3 ans.
Ouais, ça, écoute, tu fais bien de le mentionner, le jury, parce que ça nous a tous marqués. Puis moi, je me souviens très bien quand j'ai reçu ce message-là.
T'es en train de faire des pâtes.
J'étais avec un de mes amis, puis je me suis dit là, ils viennent de franchir la ligne, ça
exact.
Va leur péter sur la gueule. Bon, évidemment, ça, c'est des questions de couvre-feu. Et tant qu'à moi, ta réflexion est vraiment intéressante, mais c'est sûr qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas tout à fait le même mécanisme. Moi, je pense que cette espèce de couvre-feu-là, pour le couvre-feu pendant la pandémie, ça avait aucun maudit bon sens. Là, c'est aller vous coucher, les enfants vous surveillent. Là.
Ouais.
C'est entre ça puis vivre dans un état policier. Je sais pas trop c'est quoi la différence.
Bon, je comprends. Moi, je leur en veux pas, Frédéric Bérard. Ce que je dis, c'est que on a les moyens de le faire sans passer par l'alerte
oui,
Amber. Est-ce qu'on pourrait permettre à la Sûreté du Québec ou au service policiers des villes, des villes d'utiliser ça.
Il allait là.
Moi, ce que j'allais dire, c'est moi, je leur en veux parce que on n'utilise pas ça pour le fun. Là. Puis moi, j'ai pas le goût de vivre dans 1984 d'Orwell. Bon.
Oui, mais c'était une histoire de sécurité publique parce qu'il y avait déjà cet engrenage-là, puis ça donne beaucoup plus de possibilités au gouvernement?
Oui, ben c'est ce qu'il disait, c'est bon, sécurité publique, santé publique, patati patata, mais moi, c'est un peu ça ce que j'essaie de dire, c'est on n'utilise pas des alertes Amber pour le fun. Maintenant, l'alerte Amber, ça a été créé pour quoi? Ça n'a pas été créé pour des couvre-feux pendant une pandémie, ça a été créé pour retrouver des enfants disparus.
Mm-hmm.
En droit, il y a deux manières de lire un texte. Il y a une approche qui est très, très textuelle, si je peux dire. Puis, il y a une approche qu'on appelle téléologique. Ça a l'air technique, ce que je dis là, vous allez voir, c'est assez simple. Textuel, bon, ben c'est écrit ça, mot pour mot, OK, ça va être ça. C'est pas un enlèvement ici, donc on oublie ça. Et l'approche téléologique, à l'inverse, c'est quoi? C'était quoi l'idée, par exemple, du législateur? C'était quoi l'idée de la création d'Alert Amber? Ben l'idée, à ce que je sache, c'est bien de retrouver des enfants disparus qui sont en détresse pour lesquels on craint en ce qui a trait à leur sécurité, puis on se dit ben avec l'alerte on va peut-être pouvoir les retrouver. Tant qu'à moi, c'est pas mal ça qui est en train de se passer là.
Ben,
on va arrêter de niaiser là. Madame X a pas enlevé son enfant au sens classique du terme, évidemment. Mais si elle-même est plus trop sûre d'où elle l'a laissé, parce que c'est ce qu'elle a dit au magasin X quand elle est rentrée, elle est tout mêlée, ben là, on a le droit de s'aider aussi un peu. Puis moi, je vois pas comment un juge pourrait taper sur la tête mm-hmm. des policiers par la suite s'il lançait une alerte Amber.
Mais Frédéric Bérard, t'es avocat, enseignant, auteur, chroniqueur. Je viens de te trouver un nouveau dossier. C'est justement tenter de faire changer les paramètres au Québec pour ce qui est de l'alerte Amber. T'as du temps en masse, anyway.
Pas occupé oui. pantoute. Non, mais c'est quand même un problème de société en ce moment. C'est quelque chose sur lequel on comprend pas, Yannick et moi, depuis hier, pourquoi on s'est pas penché là-dessus. Ça fait 5 ans environ, l'affaire Carpentier. Il y a eu le rapport du coroner. Il y a eu des choses qui ont été étiquetées. Il y a 2 jeunes filles qui sont décédées justement parce que, ben, peut-être, honnêtement, puis on le saura jamais, puis c'est la grande peine de la mère et de la famille là-dedans de se dire, et si quelques heures avant, on lançait cette alerte-là, puis des gens les voyaient, puis se disait, ben, c'est pas une famille normale qui se promène dans la forêt, par exemple. Tu sais, c'est terrible, là.
Oui, alors puis moi, tu sais, je fais toujours attention avec l'adage qui dit ben la fin justifie les moyens. T'sais, tu peux pas faire n'importe quoi en disant mon objectif est louable, mais ici, là, je parle juste en avocat. Quand on parle de, d'enlèvement, je le répète, au sens classique, non, c'est pas un enlèvement, mais on est capable en droit d'étirer l'élastique. Là, on n'est pas tous des fous, là. C'était quoi l'objectif de l'alerte Amber? Ben, c'est de retrouver des enfants en détresse. Tant qu'à moi, si ça, ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on parle en ce moment-ci, je vois pas trop, là, qu'est-ce qui pourrait le faire.
Puis, mettons, d'envoyer des textos comme ça, quand c'est pas une alerte Amber ou autre, que si les policiers décidaient de le faire, puis utiliser, bon, nos textos, nos cellulaires comme moyen de communication directe, faudrait-tu que ça passe par une grande approbation au ministère de la Justice puis des débats, mettons, entre avocats?
Ben c'est sûr que là, c'est un peu pour ça que je faisais du pouce sur ce que disait Yannick là, pendant la pandémie. Tu sais, moi, mon cellulaire, là, je veux dire, c'est quand même pas non plus, c'est pas une cloche de récréation. Tu sais, je veux pas qu'on se mette à piocher là-dessus pour un oui, pour un non. Mais je pense, franchement, que les Québécois, les Québécois, de manière générale, quand ils voient une affaire du genre, trouve ça tout à fait correct et légitime qu'on leur fasse part de la disparition sur leur cellulaire. Bon, maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir, tout ça pour te dire quoi, est-ce qu'il pourrait y avoir un contrôle a priori? Moi, je connais pas le mécanisme même à l'intérieur des corps policiers. Je veux dire, c'est qui décide de peser sur le piton? C'est quoi l'autorisation qui est donnée? Qui la donne? Dans quelles circonstances, au-delà de ce qu'on vient de dire? Ça, franchement, faudrait demander aux policiers. Mais est-ce qu'on pourrait se dire, socialement parlant, ben oui, dans certains cas qui rentrent peut-être pas dans les critères classiques, ben il y a peut-être une autorisation spéciale qui peut être demandée au ministre de la Sécurité publique, par exemple. Et qui lui dit oui, OK, c'est beau, let's go, on paye sur le piton. Ça, ouais. Ça se pourrait. Je veux dire, c'est pas du génie nucléaire, là.
Non, c'est ça. Puis ce qui est hallucinant, c'est que dans l'affaire des petites carpentiers, c'est l'émission Enquête qui s'était penchée sur le dossier, puis avait réussi à avoir des témoignages de plusieurs policiers, des ex-policiers de la Sûreté du Québec qui avaient travaillé sur l'opération, puis qui parlaient des ratés. Et là, ça avait foutu en rogne Geneviève Guilbeault, qui n'était pas du tout au courant de ça. Et elle a dit ben, je redonne le déclenchement d'une enquête publique. Et c'est le coroner Luc Marloin qui était responsable de cette enquête-là. Et quand il a déposé son rapport, il a conclu que la Sûreté du Québec aurait dû envisager le pire des scénarios dès la soirée des disparitions. Il blâme également une préparation inadéquate pour les recherches sur le terrain et un manque de communication dans la hiérarchie policière. Il propose, entre autres, de déclencher rapidement une alerte aux médias dans les dossiers de disparition d'enfants, d'assurer la présence de deux enquêteurs lors de la disparition d'un enfant de moins de 13 ans, d'envisager systématiquement la disparition d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios, et enfin, il a suggéré de mettre en place des protocoles de partenariat et de collaboration avec les différents corps policiers et les autres agences. Et ces protocoles-là doivent être clairs, précis et facilement accessibles
pour tous
les agents.
C'est noir sur blanc, applicable à ce qu'on vit aujourd'hui, ce que Yannick lit là.
C'est en 2023.
Écoute, je me souvenais pas de ça, mais clairement, on s'est interrogé sur le... sur la problématique, puis je veux dire, c'est ça qui est plate souvent avec ces recommandations-là, hein, le nombre de fois que c'est tabletté, alors qu'on a pris la peine de d'engager des ressources humaines, des ressources financières, des ressources de temps, et puis par la suite, on regarde à côté. Donc moi, je le répète, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a des efforts à faire, qui ne sont pas si complexes que ça, là. Tu sais, ce que tu viens de lire là, Yannick, là, je veux dire... pas besoin de se casser la tête ben longtemps, là. C'est des trucs un peu de base. Pourquoi, comment se fait-il qu'on n'en est toujours pas là, malgré ce qui s'est produit? Ça, franchement, c'est une question posée à Geneviève Guilbeault, qui en a déjà, cela dit, pas mal dans sa besace.
Mais ça devrait pas quand même jouer, tu sais, selon les politiciens, leur horaire, ce qu'ils ont sur leur assiette. Effectivement, ils sont dans le jus, puis la CAQ est plus dans le jus que jamais, mais ça devrait pas jouer, tu sais, c'est quand même des choses qui ont été discutées en 2023, puis c'est pas contre toi, c'est juste un message conscient que je passe en ce moment.
Oh, moi, tout ce que je dis, c'est que, non, je blaguais par rapport à Guilbeault, mais tu sais, si jamais la SQ, pour X raisons, était mal à l'aise de déclencher une alerte au-delà des critères précis, des trois critères précis dont on discutait, ben qu'est-ce qui empêche qu'elle recommande à la ministre de la déclencher, puis celle-ci prend... Moi, je suis pour ça l'imputabilité politique, là. Fait que soit la ministre qui se gâche, je le fais ou je le fais pas, puis après ça, ben c'est elle qui se fera achaler en chambre si elle l'a échappé, là, de toute évidence. T'sais, on veut ça en démocratie, on veut un gouvernement responsable, c'est-à-dire un gouvernement qui rend des comptes. Et là, on le voit bien avec le fiasco de sa clique et compagnie. Tout le monde dit « Ah ben moi, je le savais pas, c'est pas moi, je suis pas au courant, papapi, papapa. » Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est la démocratie représentative, ça fait en sorte qu'un ministre qui est là, ben il faut qu'il prenne les responsabilités de son ministère, incluant les satellites, comme par exemple la SQ.
Fred Bérard, t'es avocat, enseignant, auteur, chroniqueur, t'as déjà infiltré Guantanamo. Tu dois en connaître un bail sur les droits de la personne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Canada, on peut pas garder une personne sans accusation plus de 24 heures, à moins que, bon, les crimes se soient commis pendant la fin de semaine, là. Mais le 24 heures, c'est primordial, puis c'est la raison pour laquelle on a donné une petite, on a donné une accusation d'abandon d'enfant hier, c'est ça?
Ouais, ben en fait le principe, Yannick, tu vas peut-être être surpris de l'entendre, mais il remonte à pas mal longtemps, là. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi 1215, ça fait quand même un petit bout là. Et donc c'est justement là-dedans, là, en 1215, la Magna Carta, la Grande Charte qu'on l'appelle en Angleterre, a été adoptée, puis il y avait toutes sortes de dispositions là-dedans, dont une qui visait ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus, qui est en latin évidemment. C'est quoi? C'est le droit qu'un individu a de faire contrôler sa détention. En d'autres termes, si l'État vous détient, si l'État vous prive de votre liberté, ben, on veut s'assurer que vous ayez le droit, comme individu, de demander à un juge impartial, qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi je suis détenu? Et là, c'est à l'État de venir dire pourquoi vous l'êtes. Et pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce qu'on veut éviter l'arbitraire de l'État, hein? On veut éviter que des policiers ou que des représentants de l'État autre puissent vous priver de votre liberté sans rendre de compte. Donc, ça va être au juge de décider est-ce que ça a de l'allure ou est-ce que ça n'a pas d'allure. On le voit, là, ce qui se passe aux États-Unis, là, Christine Noem, là, une des sbires de Trump, est allée dire que l'habeas corpus, c'est le droit du président d'expulser des gens du pays puis de révoquer leurs droits fondamentaux, a absolument rien compris. C'est tout à fait le contraire à 1000%, là. Ça peut pas être plus le contraire que ça. Ce qui me rassure pas, c'est que secrétaire d'État à sécurité publique, imagine-toi, c'est cute, ça t'a même pas aucune idée de ce qu'est l'habeas corpus, qui est par ailleurs le plus vieux droit fondamental qui existe, hein. À l'époque, le roi vous sacrait en prison pour un oui, pour un non, vous aimez pas la face. Puis à un moment donné, on a fini par se dire, ouais, ben, c'est bien beau qu'il m'aime pas la face, mais c'est pas un motif suffisant, ça, pour m'emprisonner. Donc, tu vois, c'est ça, le concept, ça a été, ajouté, aux chartes des droits. T'as ça, par exemple, à la charte canadienne, à l'article 11. Et c'est donc un droit qui est constitutionnel. Et on a décidé que la règle du 24 heures, sauf les fins de semaine, là, tu l'as bien expliqué, était la règle qui devait s'appliquer ici pour éviter justement les dérapages.
Ce qui fait en sorte que ça n'empêche pas que dans les prochaines heures, les prochains jours, elle puisse être accusée de d'autres choses. On peut quand même l'accuser d'autres choses les prochains jours.
Ça s'ajoute.
Ah ben oui, mais ça change rien. Puis qu'on se comprenne bien, l'habeas corpus, là, c'est pas le droit d'un bandit de partir à la course. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est simplement de dire pourquoi je suis ici. Tu parlais de Guantanamo, c'est le meilleur exemple. Parce que les gens à Guantanamo, pendant plusieurs années, dans plusieurs cas, n'avaient même aucune idée pourquoi ils étaient là. Il n'y avait pas d'accusation, là. Il n'y a pas d'habeas corpus à Guantanamo. Il y en a là-dedans qui avaient des pas propres, évidemment, mais il y en avait d'autres, des innocents qui s'étaient retrouvés dans un appart avec son beau-frère, puis le beau-frère était chum avec un pas propre, puis là, Tim, ils ont ramassé tout le monde. Le gars, après 3 ans, Guantanamo ne savait toujours pas pourquoi il était là. C'est ça qu'on veut éviter dans un état de droit qui a de l'allure. Puis l'habeas corpus, c'est-à-dire le contrôle de la légalité de la détention, c'est souvent ce qui distingue un état de droit d'un état policier, essentiellement.
Non, c'est ça. Il y en a qui dit des niaiseux à grand d'heure de journée, s'il fallait que je sois prise pour ces niaiseries dans la même arrestation, mettons, radiophonique, je serais pas heureuse, là.
Ouais, moi, je serais pas, malheureusement, un juge impartial dans cette histoire-là, parce que je l'aime bien, mon Marceau.
Mais je l'aime bien, mais le nombre de niaiseries qu'il dit, là, quotidiennement, là, je veux pas... Mais peut-être en conclusion sur au moins l'affaire qui se passe en ce moment avec la petite Claire Bell, là. Ma question, moi, c'est, tu sais, on a un ministre de la Justice qui est Simon-Jolin Barrette, qui, lui, bon, est avocat. Est-ce que c'est vraiment une opinion que je te demande, là, en ce moment? Si tu veux pas répondre, tu as le droit, mais c'est-tu la meilleure des choses qu'on peut avoir au sein de ce ministère-là? Un avocat qui connaît les rouages ou c'est un mal pour un bien ou un couteau à double tranchant?
Bien, le ministre de la Justice a toujours été un avocat pour une raison évidente, c'est qu'en même temps qu'il est ministre de la Justice, il est aussi procureur général du Québec. Donc, c'est lui qui autorise par exemple, les accusations, c'est lui qui autorise les poursuites aux civils, c'est lui qui gère un truc. Donc, en d'autres termes, il y a un double statut. Là. C'est pas seulement un ministre, c'est le représentant de l'État aussi en ce qui a trait à la justice, même de manière très concrète. Puis donc, pour le reste, oui, c'est un avocat, mais tu sais, bon, Simon-Jolin Barrette, c'est bien documenté. Moi, j'ai toujours pensé que c'est le premier ministre de la justice qu'on a jamais eu. Là. Ben franchement, là, tu sais, il a plaidé 10 minutes en droit là, à cour municipale, puis il a été nommé ministre tout de suite après. Fait qu'il n'y a pas d'expérience comme avocat, absolument pas. Est-ce que c'est une arme à double tranchant? Bah, je sais pas, vous aucune idée là-dessus, mais moi, tu vois, je le verrais plus comme étant une responsabilité du ministère de la Sécurité publique, c'est-à-dire le ministre qui, la ministre, qui est en charge de la Sûreté du Québec et des opérations sur le terrain, hein, parce qu'on le voit bien, là, il y a une question d'urgence là-dedans, et là, c'est pas le temps de tomber dans les avocateries, là, tu sais, faut respecter la loi, évidemment, faut respecter les critères aussi, mais il y a une question d'efficience, là, donc, je pense que quelqu'un qui, techniquement, est en charge de la SQ ou n'importe quel autre corps policier, devrait être la personne désignée pour déterminer ce qu'il en est, ces alertes Amber.
Frédéric Bérard, avocat, enseignant, auteur, chroniqueur, tu m'as fait bien rire ce matin. J'ai été voir de quoi tu nous jasais sur le site de Nouveau Info dans tes chroniques. Puis le petit Adolphe, là, j'ai éclaté de rire. J'étais ici à 6h15 le matin. Il était 6h15 du matin, puis je braillais de rire. Comment ça peut arriver? Explique ça à Pascal. Là. Comment tu as pu rencontrer le petit Adolphe?
Ben écoute, toi t'as trouvé ça drôle, mais moi quand j'étais là, je trouvais pas ça. Ben, faire une histoire courte, c'était. Et là, j'ai pas mentionné le nom de l'école ni la région parce que je veux préserver l'anonymat du TQ. Puis de ses parents, j'ai moins d'empathie un peu, là, mais c'est pour ça qu'il a rien demandé, là, lui, là. Fait que je débarque dans une école secondaire, blablabla, puis le prof m'avertit, il dit attention, il dit Il y a des jeunes trumpistes là-dedans, masculinistes, ils vont essayer de te challenger parce que je fais des petites capsules là, sur Facebook, Instagram, qui s'appellent Make Fascism Great Again. Et le prof les fait regarder à ses étudiantes dans la classe, puis il les commente, puis là, il dit, il y a pas mal de trumpistes. Il y a 10, 12 ou 12, 15 trumpistes là, qui vont peut-être te sauter d'en face, tu veux que tu le saches. Bon, j'étais comme moi. Je suis quand même pas allé dans une école secondaire pour me faire écœurer. Là, parce que Chris, ça paraît pas, hein, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là, tu sais, je veux bien y aller, moi, pour essayer de comment je dirais ça, faire un apport, comment je dirais, positif à la démocratie, là, mais me faire écœurer par des morveux, là, ça, je suis pas sûr que j'ai vraiment le temps pour ça, mais en tout cas, je débarque là, puis je suis de bonne foi, ok, blablabla, puis là, je la vois, la petite gang de baveux, là, sont à droite, puis tu sais, c'est un gros amphithéâtre, puis il y a pas mal de monde, toute centaine, là, il y a une quatrième, ils ont quatre classes, là, tout le monde est là, en tout cas. Et puis là, je leur demande c'est quoi la démocratie, c'est quoi le fascisme, blablabla. Puis quand je demande c'est quoi le fascisme, il y en a un qui lève la main, un des petits morveux. Puis il dit ah ben ça, il se fait en Allemagne. Je dis oui, en partie, c'est quoi ton nom? Il dit c'est Adolphe. Et là, moi, je suis sûr que, comme il fait partie clairement de la gang des petits baveux, je suis sûr que c'est une joke qu'ils ont stagé pour me planter, tu sais. Puis là, j'hésite, je me dis, qu'est-ce que je réponds à ça? Ça se peut pas, là. Je peux pas plus m'empêcher, je dis, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle, là. Il y a des millions de morts, là, du fait de l'Holocauste, du fait d'Hitler, c'est vraiment pas des blagues à faire ou quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde part à rire encore plus fort. Je me dis, c'est quoi cette gang de dégénérés, de scrupules? Je leur parle de l'Holocauste, puis ils rient. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'était juste une trollée de mauvaises personnes. Tu sais, j'en revenais pas.
Est-ce qu'ils sont jeunes et qu'ils vont concevoir notre société dans pas long?
Oui, non, c'est ça. Ça va bien. Là. Et là, il y en a un qui dit « Monsieur, c'est parce que c'est son vrai nom, Adolphe. » Ouais. Là, j'en revenais pas. J'ai dit hey. Puis là, on a enlevé ça dans le texte à nouveau parce que je voulais pas. Bon, en tout cas, mais tu sais, je me disais, cet enfant-là, là, il peut poursuivre ses parents. Ça n'a pas de maudit bon sens. Avez-vous vu le film « Le prénom »
Non,
il y a
pas du
Patrick
tout.
Bruel qui joue dedans. Mais c'est justement là-dessus, je vends le punch, là, parce que sinon, ça sera pas drôle. Bruel fait croire à sa famille qu'ils vont appeler son prochain fils, qu'ils vont l'appeler Adolphe. Puis là, ça dure pendant 1h15, 2h, je sais pas trop. Puis là, il dit, mais non, sans dessin, tu peux pas l'appeler Adolphe, voyons donc. C'est le personnage de l'histoire, tu peux pas, blablabla. Puis là, il y a niaise tout le long. Puis là, je pensais à ce film-là, puis je me disais, c'est moi le con, là, dans l'histoire, qui se fait niaiser. Puis je savais plus quoi dire, tu sais, Qu'est-ce que tu dis à un petit gars qui dit « Je m'appelle Adol », c'est vrai. Regarde, je sais pas, on va tout faire pour suivre ses parents. Je sais pas moi quoi dire, là.
Tout était parfait.
Le malaise total. Il y en a un qui dit « Ouais, mais ça s'écrit pas avec un S, ça s'écrit P-H-E. » Ah, OK, bon, non, c'est pas grave. D'abord, j'imagine.
Fait que, j'imagine.
Puis quand je dis au petit cul, je dis « C'est quoi le... As-tu d'autres exemples de fascistes? » Il dit « Non, il dit, j'en sais pas. » Bon, je dis « Évidemment. » Fait qu'en tout cas, bref, c'est une drôle d'histoire. Puis, c'était pas un mauvais gars. On a reparlé après. Ben fin pis tout, mais tu sais, je me dis, si tes parents te nomment Adolphe, ça se peut là, que tu sois un peu à droite, j'ai l'impression. Là.
Par le climat familial, t'as l'impression?
Peut-être que le grand-père s'appelait de même.
Peut-être que le grand-père rien demandé.
Ouais.
Non, mais les anciennes générations, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est pas. En tout cas, c'est parce que là, c'est parce qu'il y a une banalisation du régime nazi. Puis là, je me dis, OK, mais je fais quoi, moi, avec ça? Tu sais, c'est pas de sa faute, il a rien demandé. C'est pas lui qui a choisi son prénom. Fait qu'en tout cas, c'est à peu près ça.
Fred Bérard, tout était parfait. Ce moment-là était parfait. Un gros merci de nous faire rire par tes chroniques sur Nouveau. Puis c'est le fun de te parler une fois de temps en temps.
Ça fait plaisir, les amis, comme vous voulez.
Salut!
Salut!
Allez, lâchez pas.
Maître Frédéric Bérard, avocat, enseignant, auteur et chroniqueur. Il est-tu bon, lui?
Je l'adore.
Il est,
m'ennuie de Fred.
J'ai fait un Marceau le soir avec pendant 60 minutes, puis il nous parlait du moment où il a infiltré Guantanamo. Je sais pas si toi, c'est dans tes objectifs de vie. Là.
Mais il m'en avait parlé un peu dans leur CV, là, mais d'avoir une heure là-dessus ensemble, là, puis il a écrit un livre en passant. Là, vous avez vraiment eu du fun à en parler. Je trouvais ça super intéressant.
Infiltrer Guantanamo. T'sais. Quelle personne aurait cette idée-là? Lui.
Sans aucun doute.
OK, vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. On fait une courte pause et on vient. C'est 24 degrés sur Québec. On est très gâtés au niveau de la température. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? C'est 30 % de probabilité d'averse cet après-midi, maximum de 26, avec le facteur humidex, température ressentie de 32. Ce soir, 60 % de probabilité d'averse avec un minimum de 19. Demain, mercredi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Risque d'orage en après-midi avec une température stable autour de 22 degrés. Jeudi, ce sera de la pluie, maximum de 22 et le beau retour du soleil vendredi. Et alternance du soleil et nuages pour vendredi avec un maximum de 22 degrés. Pour nous joindre en studio, merci d'être nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis, 418-971-1021, 418-971-1021. Pascal?
Oui, incident justement sur Robert Bourassa Nord. Pour la fin d'accès depuis la rue Cyril-Duquette, c'est partiellement travaillé, il y a une panne, mais la SQ est sur place.
Ça fait deux fois que je parle de pandémie aujourd'hui. Pendant la pandémie, j'ai été faire du bénévolat dans les foyers de personnes âgées, les Châteaux Bellevue, puis j'avais été faire aussi du bénévolat dans des CHSLD à la grandeur du Québec. J'ai fait j'ai été brancardier, puis j'ai été agent de sécurité aussi, et j'ai vu la façon dont on traitait nos aînés, mm-hmm. et la plupart du temps, surtout pour ce qui est des Châteaux Bellevue, là, les aînés étaient traités aux petits oignons. Dans les CHSLD, par exemple, Pascal, j'ai vu des gens qui étaient laissés seuls plusieurs heures, puis qui semblaient à trouver le temps long comme pas possible. Ça, c'est tel que tel. Est-ce que j'ai vu des gens qui ont été laissés dans leur couche et tout ça? La réponse, c'est non. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui sont laissés à eux-mêmes dans les CHSLD. Et là, c'est supposé être full staff, à ce qu'on me dit. Je ne sais pas si tu as vu l'accident qui est survenu, qui a causé la mort d'un homme. C'est un homme qui souffrait de démence, qui est mort brûlé par les flammes dans un CHSLD de la Rive-Sud. Ça se passe dans le secteur de Montréal. Le gars a été laissé seul au fumoir, puis je vous répète, c'est un homme de 68 ans. Lui, il était atteint de démence à corps de Lewy. De mémoire, ça affecte ton côté intellectuel. Donc, tu as une perte de ce côté-là. Puis en plus, il y avait le Parkinson. Et on est allé le porter au fumoir. Mais le monsieur, il a une cigarette, puis il shake, et il a échappé sa cigarette, et il est passé au feu. Il est passé au feu dans le fumoir. Quand est-ce que ça arrive, ça?
Oui, je me suis questionné beaucoup en lisant le texte ce matin, puis je me suis dit, bon, c'est une pénurie de main-d'œuvre. Tu as abordé le fait que probablement qu'on a plus d'effectifs maintenant qu'on en avait auparavant. Parce que je me suis demandé aussi, en lisant, est-ce que sa démence faisait en sorte qu'il était catégorisé, mettons, si c'est une échelle de 10, à surveiller 9 sur 10 ou 2 sur 10? Puis que c'est un incident, ça a commencé à prendre en feu, il ne savait pas quoi faire, versus j'oublie qui je suis, où est-ce que je me situe, puis qu'est-ce que je dois faire.
T'es en chaise roulante, tu ne peux pas sauver.
Non, non, c'est ça.
Il est magané comme pas possible, puis on l'a laissé tout seul dans le fumoir, alors que lui, pendant qu'il fume sa cigarette, là, je vous répète qu'il y a le Parkinson.
Ah, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est 70 % de mémoire, 70 % de son corps qui a été carbonisé.
Ouais,
là.
Son frère a failli vomir quand il est allé identifier son frère à la mort.
Non, c'est tragique. Là.
C'est une histoire complètement débile. Et là, ce qu'on nous dit dans le rapport du coroner, c'est qu'il y avait un tablier. Il y avait un tablier pour pouvoir fumer, mais visiblement, ça n'a pas été, suffisant. Et là, on réclame que les individus qui soient là ben, puissent être vus constamment par une caméra et tout ça, patati et patata. Mais on dit que c'est des drames qui se répètent. C'est rare qu'on entend parler de ce type de truc-là, honnêtement. 2018, il y a un coroner qui recommandait plus de surveillance des résidents de CHSLD lorsqu'il se trouvait au fumoir à la suite de la mort d'un homme de 92 ans. Il souffrait de démence, même affaire que l'autre, a mis le feu à sa chemise en voulant allumer sa cigarette, puis il est malheureusement décédé. Un autre à Granby, un homme de 85 ans, qui est mort avec des brûlures au bras, thorax et aux jambes à la suite d'un incendie dans sa chambre à cause d'un briquet en 2018. On dit une défaillance du système d'avertissement d'incendie n'a pas permis au coroner d'établir quand l'incendie s'est déclenché et combien de temps il a fallu pour sortir des flammes le résident du CHSLD. Autre chose, en 2020, il y a un coroner qui a demandé une meilleure évaluation des résidents pouvant fumer. Ça se passe à Québec. À la suite du décès d'un homme de 77 ans, c'est survenu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Il utilisait son manteau pour se cacher du vent et allumer sa cigarette à l'extérieur. Et malgré les avertissements de ne pas faire ça, il a été retrouvé en flamme environ 30 minutes après être sorti pour fumer. Mort.
Tu sais, ça fait une couple de séries de... mort tragique, puis il n'y a rien qui change. Mais tu sais, on est dans cette journée-là, là, aujourd'hui, là, qu'on parle de la disparition de Claire Bell, qu'on parle de ce qui se passe en CHSLD, de la même manière, soit des morts carbonisées parce que quelqu'un s'échappe une cigarette dessus puis qui devrait être surveillé. Il y a quelque chose qui cloche au niveau des... Moi, j'appelle ça un post-mortem, là. Quand tu fais un événement, puis tu regardes après qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, habituellement, tu t'améliores l'année d'après.
Oui, exact. Là, on ne me dit pas c'est à quel endroit. Par exemple, c'est HSLD Robert Clich. Ben, si, c'est HSLD Robert Clich, c'est en Beauce, bien entendu. Un homme de 69 ans en perte d'autonomie qui est atteint d'une maladie dégénérative musculaire, qui a été laissé seul au fumoir en 2024. Il a laissé tomber sa cigarette qui fumait sur lui. Ses vêtements ont pris feu et les brûlures ont précipité son décès. Ça fait plusieurs décès.
Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est, rappelle-toi, Alexandre Lajoie du service incendie de la Ville de Québec est venu nous voir récemment. Puis à chaque fois qu'il vient, tu lui poses la même question. En 2025 ou en 2024 ou en 2023, c'est quoi le pourcentage d'incidents justement qui fait pogner le feu dans des endroits par rapport à des catégories? On revient toujours au point 1, article de fumeur. Fait qu'en plus, c'est dans les livres, c'est dans les braquettes de service incendie. On devrait être au courant que c'est un risque. Dans un fumoir en CHSLD, pourquoi il n'y a pas plus de choses qui sont prises en compte pour inculquer un esprit sécuritaire de plus, là?
Ce serait-tu cruel de les empêcher de fumer?
Oui. Je pense que c'est contre leurs droits.
Ouais, mais faut que tu sortes dehors. C'est parce que là, il y a des...
Mais dehors, ça peut te pogner pareil, là.
Ouais, je sais, mais c'est parce que là, ils ont des fumoirs adaptés. Fait qu'il faudrait que ce soit surveillé 24 heures sur 24.
Moi, je pense que c'est la surveillance. La solution,
cruel d'empêcher
moi, je pense que
de
oui. Tu sais, mettons, là, je pense à quelqu'un là, proche de moi qui a plus rien. Nécessairement en termes de capacité de vie ou son seul petit plaisir, c'est encore sa cigarette. Bon, c'est un peu déplorable dans le sens où... Qu'est-ce qu'il y a le fun là-dedans? Je sais pas, je fume pas.
Je suis pour le cancer du poumon.
Mais
tout ce qui me reste, c'est la cigarette dans la vie, madame.
La personne n'a pas de famille qui va la visiter, est malade, fin de vie. Son dernier plaisir, c'est ça. T'sais, je comprends que tu parles pas de chocolat, tu parles pas de crème glacée, tu parles pas de quelqu'un qui a été en santé toute sa vie, puis tu peux trouver ça bien déplorable, mais moi, je pense que ce serait cruel.
Okay.
Pourquoi les empêcher quand, mettons, on a des institutions gouvernementales dans lesquelles on met des taxes et impôts chaque année, nous, en termes de citoyens, puis on n'est pas capable de résoudre quelques petites affaires qui se reproduisent et qui tuent drastiquement et tragiquement des gens?
Mais n'en demeure pas moins que ça fait 5 qu'on perd, là, dans les dernières années, puis visiblement...
Ouais, mais le problème, c'est pas...
Ils meurent en s'auto-brûlant.
Oui, pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de leur prodiguer les soins qu'ils devraient avoir et pour lesquels ils ont payé toute leur vie.
Je comprends, mais les faire manger... Les changer de couche, c'est prioritaire. Les laver, c'est prioritaire. La cigarette, un petit peu plus de misère avec ça. Mais ça, c'est mon petit côté gauchiste. J'en ai un petit côté gauchiste.
C'est
t'aurais-tu pu penser ça que moi?
C'est rare qu'on ait inversé là-dessus, par exemple.
Moi,
hein?
je suis centre droit au niveau économique, mais pour le reste, je peux me promener un peu partout.
Oh! Oui, tu peux te promener un peu partout.
Or bleu, pas grand-chose sur Boulevard, on vient.
Or bleu, je ferme les yeux.